Enjeux de santé, le magazine Prévention Santé de Radio Campus Rennes.
En partenariat avec l'Agence Régionale de la Santé et la Région Bretagne.
Bonjour à tous et bienvenue sur Enjeux de santé. Commençons cette émission par une petite devinette. Elles sont gênantes, aussi bien physiquement que psychologiquement. Elles peuvent être graves, mais on n'ose pas en parler. Elles touchent notre intimité et peuvent gâcher notre vie sexuelle. Oui, je veux bien sûr parler des infections sexuellement transmissibles, ou anciennement MST. Il est important de se prémunir de ces infections, mais pour que cela soit efficace, encore faut-il les connaître. Enjeux de santé est allé à la rencontre du docteur Fawzi Souala, médecin des maladies infectieuses au CHU de Rennes, pour justement en parler. Et commençons par une question toute simple, qu'est-ce qu'une IST ?
Comme un petit peu donc la dénomination IST, c'est une infection qui va toucher globalement le tractus génital, c'est-à-dire les organes sexuels. Or, c'est pas uniquement à cet endroit que les maladies sexuellement transmissibles peuvent se manifester, puisque aujourd'hui, en raison un petit peu de l'émancipation sur le plan sexuel, il y a des relations anogénitales, classiquement donc appelées la sodomie, et par voie de conséquence, une IST peut toucher la sphère anale et la sphère rectale. Et il y a également des IST qui peuvent avoir une manifestation au niveau de la cavité buccale qui sont donc liées donc à la transmission bucogénitale. IST donc sexuellement transmissible, ça peut toucher le sexe, ça peut toucher donc l'anus et le rectum et ça peut toucher la bouche. Et tout en sachant aussi qu'une IST c'est aussi général, ça peut toucher tout l'organisme humain puisque la maladie peut avoir donc des anomalies sur le plan général. Voilà donc globalement déjà donc un petit peu ce qu'on appelle IST, mais tout est en rapport donc avec la sexualité, c'est-à-dire le rapport sexuel.
Et combien il en existe de ces IST ?
Il en existe des centaines d'IST. Globalement, il y en a plusieurs et pour être un petit peu didactique et ne pas trop embrouiller donc l'esprit des gens, on a une façon donc de les classer donc en trois grands groupes de maladies sexuellement transmissibles, celles qui se manifesteraient par tout d'abord un écoulement, ce qu'on appelle les pertes, les leucorrhées chez la femme ou l'écoulement chez l'homme, soit au niveau de son sexe, soit au niveau donc d'anomalies au niveau anorectal. Et là, il y en a quelques-unes. C'est la gonococcie, c'est les chlamydiés, c'est les mycoplasmes, c'est les trichomonases, c'est la vaginose bactérienne et la candidose. Il y a donc un deuxième grand groupe de maladies sexuellement transmissibles qui vont se manifester par ce qu'on appelle des perte de substance, qu'on appelle ulcération ou exulcération, et qui vont se manifester par des petites lésions au niveau génital, au niveau anal ou au niveau de la cavité buccale, qui ressembleraient à un aphte. Globalement, il y en a quelques-unes qui sont plutôt la syphilis, qui est donc la plus importante, la syphilis primaire. C'est aussi l'herpès génital qui va se manifester donc avec ces mêmes lésions. Il y a également d'autres maladies qu'on appelle le chancre mou, qui peuvent se manifester donc par ces lésions. La lymphogranulomatose vénérienne, ça c'est pour le deuxième type. Et le troisième type de maladie, ce sont donc des maladies qui vont se manifester avec des petites excroissances, des petites tuméfactions, type un petit peu verrues, qu'on appelle les candylomes ou les crêtes de coque, puisque c'est des choses qui vont arriver, qui sont des néoformations, donc que ce soit au niveau de la bouche, que ce soit donc au niveau du sexe, que ce soit donc au niveau de l'anus, et qu'on appelle classiquement les végétations, classiquement qu'on appelle les crêtes de coque ou les candylomes, et qui sont donc liées donc à des virus qu'on appelle les papillomavirus.
Et justement, sous quelle forme peuvent apparaître ces IST ? C'est soit des virus, des bactéries, ça peut être aussi des champignons ?
Alors, l'origine de ces IST, elle est comme porte la médecine un petit peu de maladies infectieuses. Ces maladies sexuellement transmissibles sont liées donc à tout type de micro-organismes. Ça peut être les bactéries, gonocoques par exemple, chlamydiés, ce sont des bactéries. La syphilis, c'est une bactérie. Ça peut être des virus. Et vous avez l'herpès, qui est un virus. Vous avez les HPV, les humains papillomavirus, qui sont responsables des candylomes et qui sont responsables aussi du cancer du col de l'utérus chez la femme et du cancer du canal anal chez l'homme. Ce sont des virus. Et vous avez également des parasites qui peuvent être responsables d'infections sexuellement transmissibles. Par exemple, le trichomonas, ça peut être aussi la gale, qui est une maladie sexuellement transmissible. Ça peut être donc les poux, ce qu'on appelle les poux du pubis, les morpions, qui sont également donc des parasites. Et vous avez le quatrième groupe de micro-organismes pouvant être aussi responsables d'infections génitales sexuellement transmissibles, par exemple les candidoses. Donc tous les micro-organismes peuvent être à l'origine d'une infection sexuellement transmissible.
Pour y voir un peu plus clair, je vais vous demander quelques informations supplémentaires sur des IST, on va dire, plus répandues. Commençons par la blénorragie gonococcique, qu'on appelle plus communément la chaude pisse. Et donc, quels en sont les symptômes ?
La gonococcie ou blénorragie, c'est donc le germe est un germe qu'on appelle, c'est une bactérie qu'on appelle Neisseria gonorrhea. Le principal symptôme de la maladie, de cette maladie-là, c'est du pus qui va s'écouler par, globalement, quand on touche la sphère génitale, chez l'homme ou chez la femme, eh ben, ça va se manifester par un écoulement. Cet écoulement donc qui est d'abondance relativement importante, et c'est un écoulement qui va avoir pour principale caractéristique d'être plutôt de couleur jaunâtre, contrairement donc à d'autres écoulements qui sont de couleurs différentes. Et ça va s'accompagner de brûlures donc, en urinant, ce qu'on appelle des brûlures mictionnelles. Et c'est comme ça que donc, ça a été appelé un petit peu donc, la chaude pisse, puisque au moment de la sortie, ces urines-là vont brûler. Par ailleurs, donc, il faut savoir que ces infections sexuellement transmissibles, et notamment la gonococcie, peut totalement passer donc inaperçu. Et là, c'est plutôt la femme qui pourrait être porteuse que l'homme, et globalement, c'est à l'occasion de prélèvements qu'on pourrait faire le diagnostic.
Et y a-t-il justement des complications possibles, notamment si on ne s'en rend pas compte au début ?
Pour la gonococcie, il peut y avoir effectivement donc des complications, et ce sont des complications qui vont toucher tous les organes de la reproduction. Là, ce sont donc les organes génitaux qui vont trinquer quand il y a donc une maladie sexuellement transmissible. Mais ça peut s'étendre donc aux organes de la reproduction, et notamment, par exemple, ça peut donner des épididymites, ça peut donner des prostatites, ça peut donner donc des orchies et épididymites, des atteintes au niveau des testicules. Chez la femme, ça peut donner aussi une extension vers les organes de la reproduction. Ça peut toucher donc l'utérus, ça peut toucher les trompes, ça peut toucher donc et ça donne des anomalies qui peuvent engendrer plus tard, bien entendu, pas pour le gonocoque, très peu par rapport donc à d'autres maladies sexuellement transmissibles, et notamment les chlamydiées, ça peut donner donc ce qu'on appelle des troubles de la fécondité, qui est le pronostic fonctionnel que l'on craint toujours quand il y a donc une manifestation sexuellement transmissible qui n'est pas traitée. C'est la stérilité secondaire liée donc à ces infections.
L'hépatite B peut également être transmise lors de rapports sexuels, mais quels en sont les symptômes ?
Alors l'hépatite B, c'est un petit peu donc ce qui est navrant un petit peu dans la population, c'est que donc globalement la plus importante des maladies sexuellement transmissibles, c'est l'hépatite B. Elle est 100 fois plus importante sur le plan de la transmission que le VIH par exemple. C'est dans 20% des cas une maladie extrêmement grave, et la transmission est sexuelle et par le sang. Et les gens donc, ne savent pas forcément s'ils sont vaccinés ou non contre cette maladie-là, extrêmement transmissible et pouvant être grave. Les symptômes, il n'y a pas de symptômes donc, de l'hépatite B. Classiquement, globalement, on peut faire donc, des symptômes quand on fait donc, une phase aiguë de l'hépatite. C'est rare que l'on surprenne un petit peu donc, cette phase aiguë, mais souvent, donc, c'est une découverte fortuite à l'occasion de tests sanguins. Ça va donc, se localiser donc, au niveau du foie, et ça va évoluer d'une façon insidieuse au bout de quelques mois, quelques années, pour pouvoir entraîner, lorsqu'elle va évoluer vers la chronicité dans 20% des cas, elle peut donc engager donc, au bout de 15, 20 ans, 30 ans. En fonction de l'évolutivité de cette infection-là, elle peut entraîner ce qu'on appelle une hépatite chronique avec évolution terminale qui est la cirrhose, pouvant se compliquer de cancer du foie et la seule possibilité, donc les traitements ne sont pas forcément donc très importants et les traitements ne sont pas forcément très, très efficaces et donc du coup lorsqu'on atteint déjà ce stade-là de cirrhose et de cancer, c'est la transplantation donc hépatique.
Et existe-t-il un vaccin pour l'hépatite B et le conseillez-vous ?
L'hépatite B étant une maladie virale et le virus qu'on appelle le virus de l'hépatite B va atteindre le foie. Okay. Le vaccin, aujourd'hui, la meilleure manière de se protéger contre l'hépatite B, pour éviter un petit peu donc, toute problématique, c'est le vaccin de l'hépatite B. Le vaccin contre l'hépatite B est un vaccin qui est sûr, c'est un vaccin qui est facile et c'est un vaccin qui est pris en charge par la Sécurité sociale. Il faut faire, donc, surtout lorsque la vaccination est faite avant l'âge de 25 ans, à hauteur de 3 vaccins, et là, on est vacciné et on est protégé contre cette maladie extrêmement sévère, extrêmement grave et également extrêmement transmissible.
Passons maintenant à l'herpès génital, qui est également une IST. Ma première question, ce serait de vous demander si c'était le même virus que l'herpès labial, qu'on appelle plus communément un bouton de fièvre.
Pour l'herpès génital, globalement, c'est les herpès, c'est les virus de la même famille. Okay. Pour celui qui est communément responsable de l'herpès buccal, on appelle ça le HSV1, herpès simplex virus 1. Celui qui est communément responsable de l'anomalie génitale, c'est le HSV2, herpès simplex virus 2. Mais ceci, c'est une distinction qui est totalement donc simpliste parce que aujourd'hui, on peut avoir une infection génitale sexuellement transmissible avec un herpès simplex virus 1. On peut avoir un herpès buccal avec un herpès simplex virus 2. Eu égard un petit peu donc à la relation bucogénitale où on peut se faire passer le virus qui était au niveau de la bouche, au niveau des organes génitaux. Et lorsqu'on fait donc aussi donc une relation bucogénitale, on peut récupérer donc un virus du sexe vers la bouche. Donc globalement, il peut y avoir effectivement donc des virus 1 au niveau génital et il peut y avoir des virus 2 au niveau buccal. Et donc la distinction qui était faite n'est pas forcément donc classique comme ça. Il faut savoir que les deux types de virus peuvent entraîner, mais communément donc admis, c'est plutôt le 2 qui est génital et le 1 qui est plutôt buccal.
Et dans les deux cas, c'est les mêmes symptômes et le même traitement ?
Alors, dans tous les cas, c'est le même symptôme. Par contre, effectivement, une infection donc à herpès, elle va se manifester par tout d'abord dans les premières heures. Donc, lorsqu'on a donc cette infection-là, elle va se manifester par des sensations de brûlure, de cuisson donc au niveau de la zone qui va être intéressée par l'herpès. Et puis, au bout de 24 heures, apparaissent des petites vésicules. Ces vésicules donc un petit peu, c'est des petites collections dont le liquide est translucide et ces vésicules-là vont se grouper donc en un bouquet qu'on appelle le bouquet d'herpès et puis ce bouquet d'herpès va s'éroder, il va s'ouvrir et cette sérosité va s'écouler et puis donc va apparaître donc la lésion terminale qui est l'ulcération qui est douloureuse accompagnée d'adénopathie. Dans l'un ou dans l'autre cas, ce sont les mêmes symptômes et cette ulcération, elle va évoluer donc avec donc une formation croûteuse pendant à peu près 5 à 7 jours. Cette croûte tombe au bout de 7 jours et en principe donc survient la guérison. Sauf que le problème de cet herpès-là, c'est qu'il peut être récidivant bien entendu dans les jours à venir, les mois à venir. Et cette résurgence de cette maladie herpétique, elle est variable d'un individu donc à l'autre. Il y en a qui ne font plus donc, de résurgence, de récidive. Il y en a qui vont faire donc, des récidives multiples et qui vont les gêner considérablement dans leur vie quotidienne et notamment dans leur vie sexuelle pour l'herpès génital, par exemple.
Thank you. On vient d'écouter Pause avec le titre Borgasme. Vous écoutez Enjeu de santé sur Radio Campus Rennes et nous sommes toujours avec le docteur Fawzi Souala. À l'ordre du jour, les infections sexuellement transmissibles. Après avoir notamment parlé de l'herpès ou encore de la gonococcie, abordons maintenant le cas du papillomavirus.
Alors papillomavirus ou HPV, humain papillomavirus, il n'y en a pas un, il y en a des centaines de virus qui sont responsables de cette infection sexuellement transmissible. Après, concernant ces types de virus, il y en a spécifiquement quelques-uns. La plupart vont être sexuellement transmissibles et vont être à l'origine de maladies qu'on appelle un petit peu donc les condylomes ou crêtes de coq. Parmi ces papillomavirus, il y en a deux principalement, le 16 et le 18, qui peuvent, eux, ces virus-là, générer donc, des cancers parce que tout simplement, ils entraînent un petit peu donc, un dérèglement donc, au niveau histologique, au niveau des cellules, et qui peut donc se former d'une façon donc, un petit peu différente et entraîner des cellules néoplasiques qui sont au stade de dysplasie au début. Et si toutefois donc, on laisse évoluer donc, ces dysplasies, peuvent plus tard, donc, dans le temps, engendrer du cancer. Ces cancers donc, sont à rechercher systématiquement chez la femme. C'est la raison pour laquelle elle doit bénéficier, au bout d'un certain nombre d'années donc, de relations sexuelles, donc, de ses frottis cervico-vaginaux pour élucider ce problème, vérifier si toutefois donc, il y a donc, de la dysplasie ou non, et auquel cas donc, traiter cette dysplasie. Aujourd'hui, la même situation est vécue par les hommes au niveau de la région génitale, surtout lorsque donc, les hommes appartiennent à la communauté d'hommes et ont des rapports donc, avec des hommes. Là aussi, aujourd'hui, ce qui se passe au niveau du col de l'utérus pour la femme se passe également donc, au niveau de la marge anale chez les communautés homosexuelles, parce qu'il y a aussi donc, un risque de cancer au niveau du canal anal. D'où la nécessité aujourd'hui de rechercher un petit peu par des frottis anaux chez les gens qui ont donc des rapports donc anaux, sodomie, homosexuels. Il faut rechercher ces infections-là et notamment donc le cancer du canal anal pour pouvoir le traiter donc en temps voulu pour éviter donc la dégénérescence et l'arrivée donc du cancer.
Une campagne de vaccination a été mise en place il y a quelques années visant les jeunes filles en prévention justement du cancer du col de l'utérus. Et à l'automne dernier, une plainte a été déposée contre le vaccin, le Gardasil, qui serait responsable d'effets secondaires irréversibles. Dans ce cas-là, c'était une sclérose en plaques, il me semble. Quel est votre avis à ce sujet ?
Pour le moment, jusqu'à présent, donc, il n'est pas clairement établi donc, de relation causale entre le vaccin, le Gardasil ou le Cervarix chez la femme et la sclérose en plaques. Pour le moment, on a très peu de données pour pouvoir donc, dire que donc, c'est quelque chose qui est lié donc, à ça. Moi, je pense que donc il va falloir donc un petit peu donc que les études un petit peu épidémiologiques soient poussées pour pouvoir donc préciser les choses. Aujourd'hui, je penche plutôt vers le bénéfice un petit peu de cette vaccination par rapport donc un petit peu donc aux risques qui ne sont pas fondés. Et moi, je continue donc à préconiser donc la vaccination par le Gardasil ou par le Cervarix pour toutes les jeunes filles qui sont en âge éventuellement d'avoir à débuter les rapports sexuels et notamment donc aujourd'hui avec les nouvelles recommandations que j'appuie, ce sont donc les recommandations donc de vaccination donc à partir de l'âge de 11 ans jusqu'à 19 ans pour la prévention du cancer du col de l'utérus. Aujourd'hui également, dans certains pays c'est déjà peut-être déjà lancé, mais aujourd'hui on a tout intérêt donc à faire la même chose pour les garçons, pour les protéger contre donc ce type de virus et ce type de cancer. Surtout donc les jeunes sont plutôt ou vont dire qu'ils sont plutôt donc dans la communauté ou appartiendraient donc à la communauté donc gay et qui vont avoir des relations donc avec les hommes et donc du coup ils peuvent rencontrer ce virus là au niveau de la marge anale et ont les mêmes problématiques que les femmes. Pour l'instant, donc, au niveau de la France, ce vaccin-là donc, n'est pas encore diffusé dans la communauté donc masculine, mais probablement donc plus tard donc les choses viendraient. On attend un petit peu donc on attend un petit peu les travaux qui sont faits dans ce sens-là.
Concernant la syphilis, on note une recrudescence de l'épidémie touchant notamment les homosexuels masculins. Et à quoi est-ce dû ?
La syphilis fait un boom depuis quelque temps parce que tout simplement, c'est une maladie sexuellement transmissible et cette transmission peut être dans la communauté donc homosexuelle, l'utilisation du préservatif dans les rapports anaux génitaux. Par contre, donc, l'utilisation du préservatif dans les rapports bucco-génitaux ne sont jamais prises. Le préservatif n'est jamais donc utilisé et c'est par cette voie-là aujourd'hui qu'on recense le maximum un petit peu de contamination de la syphilis et c'est pour cette raison qu'il y a donc une recrudescence relativement donc importante de cette syphilis. Probablement médiée par donc, la relation bucogénitale qui, elle, n'est pas protégée, contrairement donc, à certaines aux autres relations anogénitales pour lesquelles sensiblement donc, il y a une utilisation du préservatif, d'où la contamination donc un petit peu importante et d'où le nombre de recrudescences, un petit peu le nombre de cas en augmentation par rapport donc à la syphilis dans cette communauté-là.
Existe-t-il un vaccin pour la syphilis ?
Pour la syphilis, malheureusement, non, il n'existe pas de vaccin. C'est une maladie donc un petit peu très 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 ancienne et globalement, la chance un petit peu donc pour cette maladie-là, c'est que le germe qui est une bactérie est un germe qui reste sensible aux médicaments les plus anciens et notamment ce qu'on appelle la pénicilline. Et aujourd'hui, donc, les traitements donc, de la syphilis sont extrêmement simples.
Quand on parle des IST, on pense surtout au VIH. Pourtant, on vient de voir qu'il en existe beaucoup d'autres. Comment expliquer cette grande différence en termes de prévention et de sensibilisation ?
Je pense que ce qui fait peur, c'est le VIH. C'est la raison pour laquelle donc aujourd'hui, on a tout donné et on a tout fait pour le VIH et on a donc un petit peu délaissé les autres maladies sexuellement transmissibles. Voilà comment j'explique un petit peu donc les choses. Mais néanmoins, nous, quand on parle un petit peu donc à la population dans le cadre de la prévention, du centre de dépistage, des plannings familiaux, des centres donc d'infection et de dépistage des infections sexuellement transmissibles. VIH, hépatite, autre IST, c'est tout dans un même sac. Sauf que VIH, hépatite, ce sont des maladies graves qui peuvent avoir un pronostic vital. Les autres maladies sexuellement transmissibles n'ont pas forcément de caractère un petit peu donc de pronostic vital. Ce sont des maladies qui sont guérissables. Par contre, donc, elles peuvent avoir un impact un petit peu sur un pronostic fonctionnel. Et j'en avais parlé donc un petit peu donc au début, c'est la stérilité qui peut être liée donc à ces maladies sexuellement transmissibles, surtout lorsqu'elles ne sont pas traitées. Je parle de gonococcie, je parle de chlamydie, je parle de mycoplasme, je parle donc de ces maladies qui peuvent engendrer ces troubles. Le VIH... La syphilis n'entraîne pas forcément donc, de stérilité, bien entendu, mais peuvent avoir donc, le VIH et les hépatites peuvent avoir un impact sur le plan vital.
Et au final, quel est le meilleur moyen de s'en protéger de ces maladies sexuellement transmissibles ?
Alors, le meilleur moyen de s'en protéger, c'est tout d'abord donc, les relations qui doivent être protégées. Ça, c'est le premier point. Lorsqu'on sait que l'on est donc relativement stable dans un couple, et à ce moment-là, donc, il va falloir se faire dépister. Et là, le centre de dépistage anonyme mais gratuit donc, au CHU Panchaillot, dont le service de maladies infectieuses existe. Rencontre avec un médecin, discussion, et puis tests sérologiques ou tests éventuellement locaux qui vont être faits pour pouvoir éliminer une maladie sexuellement transmissible qui risque un petit peu donc, de gêner, bien entendu, donc, les personnes et qui peut être donc, éradiquée par des traitements avant d'aborder la sexualité sans le préservatif. Après, le troisième moyen de s'en protéger, c'est pour les maladies où il existe donc un vaccin, c'est la vaccination. qui est une vaccination donc efficace. C'est une vaccination qui est prise en charge pour l'hépatite B donc par la Sécurité sociale. Pour le Gardasil, c'est vrai que c'est un peu cher, mais ça protège contre donc, les deux principaux virus qui sont donc responsables du cancer. Lorsqu'on se protège, donc, on évitera un petit peu pas mal les déboires. Et donc, le maître mot, c'est la prévention donc un petit peu dans le couple. Et avant toute liberté un petit peu sexuelle sur le plan du couple sans préservatif, et ben donc lorsqu'on sait qu'on va être donc stable, il va falloir donc un petit peu se faire dépister.
Ces infections touchent parfois les parties génitales, elles restent un peu taboues. On peut avoir une certaine réserve à en parler. Et du coup, qui aller voir si on a des doutes et à qui on peut en parler?
Eh bien, j'ai vu des gens qui ont traîné donc ces maladies-là pendant un mois, pendant deux mois, pendant trois mois, parce que tout simplement, ils ne savaient pas donc quoi faire, ni où aller. Et globalement, tous les médecins peuvent éventuellement donc prendre en charge ces pathologies. Le premier à voir, c'est son médecin traitant. Et souvent, donc, par contre, donc, les personnes donc, n'osent pas donc, aller vers le médecin traitant parce que tout simplement, il les connaît, parce que tout simplement, ils ne veulent pas. Donc, c'est un petit peu donc, de la pudeur. Et ben, donc, dans ces conditions-là, vous avez des centres donc, de soins de ces infections sexuellement transmissibles, le CDAG donc, à Pontchaillou, qui est le centre de dépistage anonyme et gratuit. C'est anonyme, je répète, et c'est gratuit et c'est pris en charge même pour les mineurs donc, avant l'âge de 18 ans. Lorsqu'on a donc un moindre signe par rapport donc à une infection qui peut être sexuellement transmissible, je répète, écoulement au niveau génital, anomalie au niveau anorectal, anomalie au niveau de la cavité buccale après des relations sexuelles, il faut se présenter, il faut aller au centre de dépistage. Vous rencontrez donc un médecin anonymement. Vous discutez donc avec le médecin, vous êtes testé et vous êtes traité pour ces infections-là. Il ne faut pas les laisser donc évoluer parce qu'elles peuvent avoir un impact. Parce que tout simplement, si vous laissez donc évoluer, il peut y avoir éventuellement donc des conséquences au niveau génital, au niveau des organes de la reproduction et ça compliquera bien donc les choses. Après, vous avez aussi des centres d'information et de soins, donc des IST, ce qu'on appelle les CIDIS, les ex-dispensaires vénériens. À Pontchaillou, il en existe aussi donc, au service de dermatologie, où il est fonctionnel deux fois par semaine. Et vous avez, bien entendu, aussi pour les jeunes femmes, où vous avez donc les centres de planning familiaux qui peuvent aussi donc, prendre en charge ces anomalies-là. Parce que tout simplement, la jeune fille qui a l'occasion éventuellement de la pilule peut refaire le point par rapport donc, à la prévention de ces infections-là, ou si elle a donc une anomalie quelconque et qu'elle doit être examinée sur le plan gynécologique. Et donc à ce moment-là, donc elle peut rencontrer donc un gynécologue au niveau de ses plannings familiaux. Je prêche pour ma paroisse. Moi, je suis responsable et coordinateur du centre de dépistage anonyme et gratuit au service des maladies infectieuses à Pontchaillou. Et ben donc, nous sommes ouverts donc sans rendez-vous le lundi de 15h à 18h. Nous sommes ouverts le samedi matin de 9h à midi sans rendez-vous pour rendre service à la population, jeune ou moins jeune, âgé ou pas âgé, quel que soit son statut et quelle que soit sa préférence sexuelle, il n'y a pas de souci. Et puis donc, on officie également sur rendez-vous le mardi de 16h à 19h et le jeudi de 16h à 19h.
C'est la fin d'Enjeux de Santé, merci de nous avoir écoutés. Si vous avez d'autres interrogations au sujet des IST ou si vous voulez connaître les différents centres de dépistage présents en Bretagne, rendez-vous sur radiocampusrennes.fr. Vous y trouverez également le podcast de l'émission. Bonne journée à tous et à la prochaine sur Radio Campus Rennes.